BFM Business, BFM Crypto, le club. Sandra Gandoin.
Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Il est 15h, c'est l'heure du club BFM Crypto sur BFM Business. On a encore aujourd'hui, en ce début de semaine, plein de sujets à évoquer. L'institutionnalisation, les USA qui ouvrent, les perspectives du secteur, le cours du Bitcoin. Est-ce qu'on est en bear market? On va parler de Bitcoin, Treasury Companies aussi, du Bhoutan aussi, si on a le temps. Bref, on a beaucoup, beaucoup de sujets très divers aujourd'hui. Mes invités, Yves Chouefati, fondateur et président de Tobam. Bonjour Yves.
Bonjour Sandra.
Ravie de vous avoir sur le plateau. Louis Laszlo est également ici, CTO chez Meria. Bonjour. Bonjour. Louis, et Pauline Armandet, journaliste BFM Business. Bonjour Pauline, ravie de vous retrouver sur ce plateau. Vous nous posez toutes vos questions, vous savez, on y répond tous les jeudis entre 15h et 15h30 à cette adresse, crypto au singulier, @bfmbusiness.fr. Le club BFM Crypto, c'est parti. Un petit regard sur le cours du Bitcoin, 71 522 $. Ça fait longtemps que vous n'êtes pas venu sur ce plateau, Yves. Le Bitcoin affiche une baisse de 22% depuis le début de l'année, moins 19% en un an. Comment vous l'analysez, cette baisse ?
Alors le Bitcoin, c'est un actif qui est très risqué. Sa volatilité, elle est d'ordre de 60%. Pour donner une échelle, la volatilité du CAC 40, c'est à peu près 17. Ça veut dire que, grosso modo, quand le Bitcoin baisse de 40%, c'est comme quand le CAC 40 baisse d'à peu près 12%. Et si le CAC 40 baisse de 12%, on parle pas de la fin du monde. Voilà. Donc c'est pas vraiment un bear market,
ouais.
C'est vraiment du business as usual. Un bear market, pour vous donner une idée, c'est quand le Bitcoin est passé de 20 000 à 3 000, ou quand il est passé de 60 000 à 12 000. Ça, c'est un vrai bear market. On a souvent coutume de dire à Tobam que le Bitcoin, c'est un actif dans lequel, à peu près une fois par trimestre, sur un week-end, vous perdrez 30% de votre valeur. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement commun. Et le Bitcoin, du fait de son risque, c'est un actif qui est de très long terme. Et en fait, chaque fois qu'il baisse, historiquement, ça a été une superbe occasion de pouvoir en acheter pas trop cher.
Une opportunité, voilà. Exactement, un peu plus de 70 000 $. On va voir les raisons dans un instant. Votre avis sur la question, Louis ?
Si on prend un peu de recul par rapport à juste Bitcoin, toute la macro, et si on fait un peu un retour sur ce qui se passe sur les marchés actuellement et sur la macro en général, les valeurs technologiques américaines sont aussi dans l'incertitude. On voit les mouvements d'entrée et de sortie de capitaux massifs sur les marchés américains qui jouent un peu à la pluie et le beau temps en fonction de l'actualité et du président américain. Qui joue un peu avec ça et avec ce qui se passe en Iran notamment. Et il y a aussi beaucoup d'incertitudes sur la politique de la Fed à venir. On a les taux mi-mars qui vont aussi annoncer un peu la couleur. Donc voilà, il y a pas mal de choses, si on prend en recul, que sur hors crypto, qui font que bon, on est un peu en attente et c'est un peu l'incertitude, une zone de turbulence ou en tout cas d'attente d'un certain nombre de types d'acteurs.
On était plutôt autour de 60, 63 avant le début du conflit au Moyen-Orient, en tout cas le début du conflit, cette phase-là. Vous l'attribuez, vous, cette remontée, Yves, au contexte géostratégique, géopolitique, pardon, ou
moi, j'ai l'habitude de à cet égard, j'ai l'habitude de citer une vieille citation de Nathan Rothschild, 1810, à l'époque des guerres napoléoniennes déjà. Il disait, il faut vendre au son du clairon, il faut acheter au son du canon.
Oui, j'ai souvent entendu ça.
Voilà. Et effectivement, même s'il n'y avait pas le son du canon, il y avait quand même des très grosses rumeurs géopolitiques, des très gros bruits géopolitiques. Et quand il y a le clairon, effectivement, il faut vendre les actifs risqués et acheter de l'or. C'est ça, d'habitude, qui se produit. Et une fois qu'on est vraiment au son du canon, j'étais à un déjeuner organisé par BlackRock en fin de semaine dernière, où ils ont montré une étude. En fait, le son du canon, il faut toujours acheter. Il n'y a pratiquement pas d'exception depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Chaque son du canon, il fallait effectivement, le marché se casse la figure au début, et c'est vraiment le moment d'acheter des actifs risqués. Mmh. Et effectivement, ce qu'on observe là, jusqu'à maintenant, on est loin de la conclusion. Ce qu'on observe maintenant, pour l'instant, c'est effectivement qu'au fur et à mesure qu'il y avait une hausse des tensions géopolitiques, il fallait sortir des actifs risqués et acheter de l'or. Effectivement, dès que le canon a commencé à tonner, il y a eu des prises de bénéfices sur l'or. Aujourd'hui, ce qui est vraiment extraordinaire, c'est le gap qui s'est créé entre l'or et le Bitcoin, qui est à peu près l'équivalent du gap qui s'était créé au début du Covid, au début de 2020. Il y avait un énorme gap qui s'était créé, l'or avait complètement fait un rallye et le Bitcoin était complètement plat. Et dès qu'il y a eu des prises de profit sur l'or, vous savez, le monde aujourd'hui, une bonne partie de la dynamique de l'allocation d'actifs dans le monde, elle est dominée par des hedge funds.
Ouais.
Et les hedge funds, ils sont là pour capturer des opportunités. Et dès qu'ils ont fini de capturer une opportunité, ils vont prendre leur profit, puis ils vont aller sur la suivante. Et là, aujourd'hui, il y a un gap tellement important qui s'est créé entre l'or et le Bitcoin que ça paraît complètement naturel, hein, qu'une partie de ces prises de profit se reporte sur l'actif qui est en retard. Et l'actif qui est en retard, c'est clairement le Bitcoin. Pour faire coïncider à peu près la courbe de l'or et du Bitcoin, historiquement, il faut prendre grosso modo un retard de 200 jours sur la série temporelle de l'or. Il faut multiplier l'échelle verticale par 15.
C'est le mathématicien
et
qui
voilà.
parle.
Pardon.
Pauline, juste pour rebondir sur l'or et le Bitcoin, ce qu'ont remarqué de nombreux experts sur le mois de mars, c'est que en tant que valeur refuge, le Bitcoin apparaissait aujourd'hui comme plus intéressant même que l'or ou d'autres actifs traditionnels, parce que à la différence de l'or, typiquement, le Bitcoin permet de transférer de l'argent. Et donc, au mois de mars notamment, on a vu vraiment le cours de l'or augmenter. Dans ce contexte aussi, par rapport à l'or, qui gagne vraiment aussi en crédibilité comme valeur refuge. Donc ça, c'est assez intéressant de le noter. Ce n'est pas forcément ce qu'on notait au cours des derniers mois, mais voilà, on voit aussi cette progression dans ce cadre-là.
Ce qui est intéressant, c'est que sur ce cours du Bitcoin, j'ai lu qu'effectivement, on l'attribuait à cette crise au Moyen-Orient. D'autres analystes l'attribuent à l'activité de stratégie et à ce qu'ils font en ce moment. Qu'est-ce que vous en pensez, Yves ?
Alors effectivement, Stratégie est en train d'acquérir des nombres de Bitcoin complètement historiques.
Oui.
Par rapport au volume quotidien qu'ils traitent en Bitcoin, on est encore quand même à deux ordres de grandeur en dessous. Je ne pense pas que ça ait une influence très court terme sur le cours du Bitcoin. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, les stocks de Stratégie, on approchera dans les mois qui viennent le million de Bitcoin. Hein. On est à 760 000, je crois, Bitcoin aujourd'hui.
738, je crois.
Voilà, c'est, ouais. Voilà. effectivement, ils ont une stratégie. Vous savez, la stratégie de cette entreprise est très ancienne. Mmh. Moi, j'ai le coutume de dire qu'elle date de 1694. Hein, la première aventure du type stratégie, elle date de 1694. À l'époque, il y avait un groupe d'hommes d'affaires en Angleterre qui se sont réunis et ils ont décidé de créer une nouvelle entreprise dont le business model consisterait à lever du capital pour acheter de l'or. Vous savez comment ils ont appelé cette boîte ?
Oui, moi je sais.
Ah, vous savez, ils l'ont appelé la Banque d'Angleterre.
Oui.
En fait, le modèle, c'est le modèle d'institut de réserve. Hein, Michael Saylor a modernisé le concept d'institut de réserve. On a besoin sur cette planète d'un actif non questionnable, d'un actif dont on sait qu'il a de la valeur. Hein, dans le passé, c'était l'or. L'or, il souffre, comme vous l'avez dit, Pauline, d'un grand problème, c'est qu'il n'est pas auditable. Hein, si je vous dis j'ai 5 lingots d'or, vous allez me croire. Mais si je vous dis ben voilà mes 5 lingots d'or, donnez-moi 400 000 euros. Vous allez vous poser des questions. La seule manière d'avoir un verdict définitif sur la qualité de l'or que je revendique, bah, c'est de fondre les lingots. Il s'échange aujourd'hui, tous les jours, des milliards de dollars d'or papier. Et les stocks d'or réel n'ont jamais été audités. C'est extraordinaire. Mmh. Mmh. Vous êtes censé être l'actif de confiance et vous n'êtes pas auditable. Les stocks de l'or de France, j'ai un scoop là, on est à la télé. Les stocks d'or de France n'ont jamais été audités sérieusement.
Donc on n'est pas sûr de leur valeur.
On ne sait rien du tout. On pense, hein, je pense qu'effectivement c'est sans doute de l'or, mais ça n'a jamais été audité. La seule banque centrale qui a véritablement audité ces stocks d'or, c'est la Bundesbank. Quand il y a eu la réunification entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest, ils se sont dit quand même, qu'est-ce qu'on prend, de quoi on hérite. Et ils ont audité à peu près 1% des stocks d'or qui leur arrivaient. Donc tout cet or qu'on s'échange aujourd'hui, il n'est pas audité. Il y a quand même un problème théorique. Empiriquement, je pense que c'est de l'or, mais théoriquement, il y a quand même un sujet.
Ouais. Louis.
Ouais, c'est intéressant de regarder la corrélation. C'est vrai qu'il y a un gap, et si on regarde surtout ces derniers mois et sur tout ce qui est trading d'options ou de dérivés, il y a une vraie corrélation entre or et Bitcoin. Et là, on voit l'or qui a pris une sérieuse claque depuis son ATH, hein, moins 20%. J'ai vu un tweet passer sur ça. Est-ce que l'or n'est pas devenu une crypto? Puisque il y a des volumes d'options qui sont très significativement démesurés, avec des leviers incroyables. Et donc là, on voit l'or ces derniers mois qui joue limite aux tendances d'un shitcoin ou d'un memecoin sur les marchés, avec des volumes d'options terribles, des débouclages de liquidités terribles. Et c'est ce qui fait les effets de levier qu'on a ces derniers temps.
Oui.
Donc, est-ce que le Bitcoin devient une alternative, l'alternative viable ou l'héritier de la valeur de refuge, de référence, de protection du capital?
L'avenir nous le dira.
L'avenir nous le dira. Je reviens sur stratégie et sur la stratégie de cette entreprise avec ces obligations perpétuelles là qu'elle a mis en place en 2025. Certains qualifient ce système de pyramide de Ponzi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est en fait, Yves?
La pyramide de Ponzi, c'est quelque chose d'extrêmement facile à comprendre. Il s'agit d'un dispositif où il y a des cotisants, hein, qui cotisent un schéma. Après, il y a un schéma de répartition. Hein, donc, les Français sont assez familiers des schémas où on cotise et on répartit. Hein, il doit y avoir trois conditions pour définir un schéma. Il doit y avoir des cotisants. Il doit y avoir une répartition quasi immédiate de la cotisation. Et il ne doit jamais y avoir d'investissement réel. C'est ça qui définit un Ponzi. Ponzi, ça vient du début du XXe siècle. C'est Louis Ponzi, je crois, ou quelque chose comme ça. Un Italien qui a immigré aux États-Unis et qui a mis en place une pyramide par laquelle il faisait croire à un investissement miraculeux. Mais en fait, la seule chose qu'il faisait, c'est qu'il prenait l'argent des cotisants et il le répartissait vers les bénéficiaires. Et il y avait de plus en plus de cotisants, mais un jour on s'est rendu compte qu'en fait c'était une bulle parce qu'il n'y avait rien dedans.
Oui, parce qu'il payait les premiers cotisants avec l'argent des derniers. Est-ce que là...
L'autre exemple, c'est Madoff.
Oui, exactement.
Madoff, il n'a jamais investi sur les marchés. Voilà. Là, c'est quelque chose de très différent parce que la cotisation, elle sert effectivement à investir dans le Bitcoin. Donc, ce n'est pas du tout vide. Ce n'est pas comme, pour imaginer un système de répartition, on n'investirait jamais. Je sais pas, il faudrait être farfelu pour imaginer ça, mais voilà. Mais là, c'est pas du tout le cas. Donc, ce n'est pas du tout un schéma de Ponzi. C'est une thèse d'investissement. Il joue. Vous savez ce que ça veut dire, spéculer? Spéculer, ça vient du latin speculare, ça veut dire voir. C'est pour ça qu'on parle de spectateur. Spectateur et spéculateur ont la même racine latine. Un spéculateur, c'est quelqu'un qui a une certaine vision de l'avenir et qui va fabriquer un investissement qui va tirer avantage de cette vision de l'avenir. Donc Michael Saylor, le fondateur de Strategy, il a une vision de l'avenir. Il dit, l'actif dominant de l'avenir, c'est le Bitcoin. Et je vais fabriquer un dispositif qui va investir massivement en Bitcoin et vous permettre de tirer avantage de cette vision de l'avenir si elle se réalise. C'est pas du tout un Ponzi.
Pourquoi alors ça inquiète à ce point cette façon dont stratégie... Il y a la chute du cours évidemment, mais pourquoi ça inquiète?
Vous savez, il y a une photo célèbre, je crois que... Je ne me rappelle plus quelle rue. Je crois que c'est Broad Street, à Broadway, à New York. C'est une photo il y a deux photos, en fait, prises à 25 ans de distance. Dans la première photo, vous avez que des chevaux, vous avez une voiture. Et dans la deuxième photo, vous avez plein de voitures et un seul cheval. En fait, c'est un schéma qui est très classique, hein, dans l'histoire de l'humanité. L'histoire de l'humanité, c'est... Une partie de l'histoire de l'humanité, c'est traiter des problèmes. Par exemple, à un moment donné, on avait des problèmes, on avait des infections. On les traitait comment? On les traitait intuitivement. Jusqu'à ce qu'un jour, il y a un gars qui dise, en fait, il faut de l'antiseptique et puis on pourrait même faire des antibiotiques. Et on a dit, qu'est-ce qu'on a fait ce jour-là? On a apporté une réponse technologique au problème. Un des plus anciens problèmes de l'humanité, c'est le stockage de la valeur. Comment faire en sorte, quand on a fini de travailler le soir, que l'argent qu'on a produit... nous me permettent d'acheter le travail de quelqu'un d'autre dans 10 jours, dans 10 semaines, dans 10 mois ou dans 10 ans. Il faut stocker de la valeur. Et ce problème qui est crucial pour le fonctionnement d'une économie, il est vraiment crucial. Hein, si vous devez dépenser jour même le travail de votre journée, c'est infernal. Vous ne pouvez pas investir dans l'avenir. Okay ? Ce problème qui est crucial, on l'a traité de manière intuitive. On a dit peut-être dans des coquillages, peut-être des grands cailloux, peut-être du bronze, peut-être de l'argent, peut-être de l'or, peut-être du papier imprimé par le roi ou par l'État. C'est, tout ça, c'est intuitif, ça n'a rien de scientifique. Et ce qui s'est passé, qui est extraordinaire, entre 2008 et 2009, c'est que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, il y a quelqu'un qui a apporté une réponse technologique à ce problème. Hein, qui a dit, ben, je vais fabriquer quelque chose qui est effectivement indestructible, qui est quelque chose qui est effectivement acéphale, quelque chose qui est effectivement rare et quelque chose qui est auditable et échangeable, de manière technologique. Et ça, en face de ça, la bonne réponse, c'est créer des instituts de réserve. Et c'est ce qui est en train de se produire.
Louis.
C'est un peu difficile de rebondir sur ça. Et c'est toujours un plaisir, parce que j'ai l'impression de revenir à l'école.
Ça. C'est toujours philosophique avec
Mais c'est toujours super intéressant. Moi, je bois.
Absolument.
Mais oui, non, sur le fait de stratégie. Après, si on regarde un peu le très factuellement, ce qui inquiète, sans s'intéresser aux fondamentaux derrière la stratégie, c'est potentiellement un prix de liquidation potentielle de la stratégie que mène stratégie. Donc ça inquiète. Après, Michael Saylor et Stratégie ont prouvé jusque-là qu'ils ont assez de liquidités pour couvrir
les intérêts de leur truc
et ont de quoi rouler encore assez longtemps sur les différentes options, les différentes obligations qu'ils ont émises. Donc voilà, jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant, Stratégie sert.
Ça tient.
Il y a 10 milliards de dollars de dettes et il y a à peu près 70 milliards de dollars d'actifs. Donc grosso modo, il faudrait que le prix du Bitcoin soit divisé par 6 ou 7 pour qu'ils aient un problème. Ce problème, en plus, il serait pas immédiat, parce qu'ils ont effectivement, comme tu l'as dit, 3 ans de réserve en cash. Donc, franchement, il y a un cas négatif, hein. Ce n'est pas un miracle. C'est une spéculation, au sens noble du terme spéculation. Hein, c'est comme toutes les entreprises endettées, hein, comme Amazon à un moment donné, comme Microsoft au début. C'est une boîte qui a une dette et qui a une thèse d'investissement, mais c'est pas un Ponzi du tout.
Ne pas écouter trop les inquiets sur ce cas-là. Louis, vous vouliez revenir, vous, sur l'institutionnalisation du secteur de façon plus générale, aujourd'hui.
Complètement. Ces derniers mois, on a vu de plus en plus d'institutionnels au sens large, que ce soit crypto ou plus traditionnels, qui se positionnent sur le marché. Les ETF ont été un moyen, on va dire, d'accélérateur, soit de prise de conscience, soit d'accélérateur, pour de facilitateur pour accès au marché. Ouais. Donc, on a de plus en plus d'institutionnels qui se projettent sur le marché. À côté de ça, on voit une maturité du secteur, on voit de plus en plus d'acteurs qui deviennent matures, avec des cadres réglementaires en Europe avec MiCA, avec le Clarity Act qui devrait se préciser dans, on va dire, le courant avril, début avril, j'ai entendu sur les dernières indications. Donc il y a une réelle prise de position. Aujourd'hui, la question de fond à se poser, c'est est-ce que ce que propose au sens large l'écosystème crypto est institutionnel ready, est prêt à être adopté par les institutionnels? On le voit encore récemment dans les actualités avec des protocoles DeFi qui deviennent défaillants, des failles dans les protocoles DeFi qui sont défaillants, qui montrent qu'on a encore un petit écart entre ce qui est attendu par les institutionnels et ce qui est proposé par l'industrie crypto. Donc voilà, il y a un petit gap à combler et il y a un certain nombre d'entreprises du secteur qui aujourd'hui sont câblées, outillées et qui poussent main dans la main soit avec institutionnels, soit avec régulateurs pour aller dans ce sens-là. Donc voilà, on a toujours un petit décalage, mais beaucoup d'adoption, beaucoup d'attentes et beaucoup d'intérêt sur le marché de ce côté-là.
Le secteur se transforme incroyablement. Que cherchent les institutionnels en allant vers la crypto? Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'ils ne cherchent pas la même chose que les acteurs qui ont créé le secteur, évidemment.
Complètement. Aujourd'hui, un individuel, ce qu'il va aller chercher, surtout un individuel crypto, on va dire un crypto natif,
oui.
Il va aller chercher du yield, il va aller chercher un rendement le plus significatif possible, en balançant les risques, mais en allant s'exposer aux risques plus qu'une institution. Une institution, comme disait Yves, elle base son système sur la confiance. Elle a la confiance de ses investisseurs, la confiance de son board, la confiance des individuels qui lui font confiance, qui lui confient leur liquidité et donc cette confiance. Et aujourd'hui, elle ne peut se permettre au même risque, au même jeu qu'un individuel crypto-natif qui va s'exposer à la DeFi. Donc il y a un petit écart à jouer de ce côté-là et il y a aussi un besoin de transparence. On le voit, je parlais de protocole DeFi, on parlait avant de ça. Il y a eu encore ce week-end un protocole qui a fait défaut, qui a été exploité à mauvais escient et qui expose une perte de plus de 25 millions de dollars. Aujourd'hui, si demain je suis Crédit Agricole, je suis BPCE, je ne peux me permettre... et cet échec de liquidité, même si à l'échelle de ces institutions on parle d'une goutte d'eau dans l'océan, mais il y a aussi un défaut d'image qui serait significatif et dans l'adoption de l'asset et vis-à-vis de l'institution. Donc voilà, il y a encore un petit décalage, mais il y a beaucoup de choses qui sont en train de se construire. En France, on a un tissu qui est très, très pérenne. Je pense notamment à Kiln, qui travaille avec, qui a fait une annonce avec CoinShares la semaine dernière, et leur protocole RailNet, qui vise justement à accompagner les institutions traditionnelles à s'exposer et à construire des stratégies autour des technologies blockchain et de ce que propose DeFi. Voilà, on a, faut toujours voir le verre dans un sens ou dans l'autre. On n'est pas encore totalement prêt à être institutionnel ready, mais beaucoup de choses sont en train de se construire et main dans la main avec ces institutions. Donc ça, c'est plutôt, plutôt bénéfique.
Votre avis sur cette question, cette transformation totale du secteur 2026 va être passionnante pour ça. Dans un an, on ne sera pas dans le même état.
Il y a deux choses. Il y a la transformation du secteur de la crypto, mais il y a aussi la crypto qui va transformer la finance. La semaine dernière, Dow Jones a annoncé un partenariat. Depuis la semaine dernière, le S&P traite 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, grâce à la crypto. On a beaucoup de clients aux États-Unis. J'avais fait un roadshow aux États-Unis il y a peut-être une dizaine d'années. Un des plus grands gérants d'actifs américains, ils avaient déjà 400 ingénieurs qui travaillaient à la tokenisation. On a fait un calcul à Tobam. Si moi, j'achète une action LVMH et que vous la vendez, sur le marché. Et si vous comptez le nombre d'intermédiaires qu'il y a entre vous et moi, il y a 15 intermédiaires aujourd'hui. Imaginez un monde où vos actions LVMH, vous les détiendrez dans une wallet. Je pourrais vous les envoyer en faisant comme ça. Que je sois basé à Tokyo, à Tombouctou, à Toulouse ou à n'importe où. Qu'on ait tous accès au même prix. Que le trade soit incensurable. Ça va complètement changer le monde de la finance. Je skie et je connais un peu la finance. Aujourd'hui, la finance, c'est vraiment skier dans le brouillard. Le jour où Lehman Brothers fait faillite, il a à peu près le même rating que la France, aujourd'hui. Donc, on n'a aucune idée de la transparence de notre contrepartie. Dans le monde de la crypto, vous avez une transparence qui est inouïe, et ça va complètement changer quand les valeurs mobilières seront tokenisées, et on parle d'un horizon de 3-4 ans aux États-Unis. La finance va être complètement transformée.
C'est complètement intéressant de vous écouter. En même temps, c'est tellement vertigineux qu'on a du mal à se rendre compte précisément de vers où on se dirige. Il nous reste 4 petites minutes. On a un sujet à traiter avec vous, Pauline. C'est ce moment historique pour l'écosystème. Après des décennies d'incertitudes, le gendarme américain des marchés a reconnu que la plupart des cryptos ne sont pas des titres financiers.
Oui, et désormais, la plupart donc, des crypto-monnaies pourront être qualifiées donc, de marchandises. Alors, ça change beaucoup de choses parce que jusqu'à présent, le Bitcoin pouvait être qualifié ainsi, mais sur les autres cryptos, la SEC était soit floue, soit les avait qualifiées de titres financiers qui tombaient sous sa régulation. Donc, c'est un moment historique pour l'écosystème parce que ça change pas mal de choses finalement, à la fois pour les particuliers et les plateformes. Pour les particuliers, s'ils font de l'achat de ce type de crypto sur des plateformes, ils ne pourront pas se retrouver dans des situations où elles peuvent être délistées, ou considérées comme illégales. Et du côté des plateformes, on va dire que le régulateur, là, en l'occurrence, qui sera plus la CFTC, donc un autre régulateur, il est quand même un peu plus souple, notamment en ce qui concerne le fait de lister ces crypto-monnaies. On va dire que ça facilite à la fois l'achat et la vente côté utilisateur et côté plateforme.
On rappelle pourquoi la SEC s'est retournée, en fait.
Alors, effectivement, on a une politique qui est beaucoup plus pro-crypto donc de l'administration américaine depuis l'arrivée de Donald Trump, qui a placé à la tête de la SEC Paul Atkins, qui est une personnalité plutôt en faveur de l'écosystème, plutôt que l'anti-crypto Gary Gensler. Et donc, c'est dans ce contexte qu'on observe un vrai virage pro-crypto de ce régulateur financier qui, va se mettre un peu plus sur le côté par rapport à d'autres régulateurs et va laisser vraiment à l'écosystème le moyen de se développer, d'innover de manière assez favorable pour les utilisateurs.
Bonne nouvelle, Louis.
Ouais, bonne nouvelle, c'est encore une nouvelle fois des bons signaux qui viennent outre-Atlantique. On a eu l'année dernière la clarification du cadre des stablecoins qui ont été un phénomène d'ampleur puisque les volumes ont explosé, l'afflux de liquidités a explosé et un grand nombre d'entreprises traditionnelles se saisissent du sujet et transforment leurs industries et privilégient les rails blockchain à la finance traditionnelle. Et là, on voit avec justement les avancées côté SEC, SFTC, d'un certain nombre de sujets qui vont aboutir à ce qui est attendu par le secteur depuis des années, qui est le Clarity Act, qui devrait permettre enfin de fixer les règles du jeu clair et donc permettre le développement pour un certain nombre d'entrepreneurs de leur activité, puisque c'est complètement compliqué de créer une boîte, de la développer sans connaître les règles du jeu et d'avoir peur chaque matin d'avoir la SEC ou la SFTC qui débarquent, fermer votre boîte. Donc ça, voilà, ça va être un signal et un accélérateur à voir comment ça se précise. Et ce qui se passe aux États-Unis arrive plus ou moins en décalé quelques années ou quelques mois plus tard de notre côté. Donc on va voir l'effet bénéfique que ça va pousser sur le secteur dans les prochains mois.
C'est toujours ce qu'on espère. 30 secondes pour finir, Yves.
Bon, pour conclure sur ce sujet-là, effectivement, on a eu une nouvelle technologie qui s'appelle la blockchain. Et la bonne réponse à avoir en face d'une nouvelle technologie, c'est jamais de se poser la question est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal. La vraie question à se poser, c'est est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas. Et une fois qu'on a compris que ça marchait, eh ben il faut en tirer un profit. Et c'est ça la vision, la bonne approche, l'approche saine à avoir vis-à-vis d'une technologie. Et je pense qu'on est clairement engagé maintenant dans cette voie-là. On va essayer de tirer avantage de cette nouvelle technologie.
Merci à tous les trois. Pauline Armandet, journaliste BFM Business. Yves Chouefati, président et fondateur de Tobam. Louis Laszlo, CTO chez Meria. Je vous laisse entre les mains tout de suite de BFM Bourse. Très bon après-midi sur BFM Business.
BFM Business, BFM Crypto, le club.